Chapitre 7. Il ne fallut pas à Courteheuse un long examen pour estimer le produit qu'il pourrait faire rendre à l'étude d'Oissel, mais il se garda de rien laisser paraître de ses espérances. Avec un caractère franc et droit comme celui du père Rotin, il avait vite compris ce que celui-ci désirait chez son successeur, et il eût été plus que maladroit de montrer avant son entrée en exercice qu'il n'était pas d'accord sur la pratique du notariat. Au contraire, il s'était fait tout petit, sans ambition, sans besoin comme sans désir. Gagner de l'argent, sans doute, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout dans la vie. D'ailleurs, quand on ne veut que gagner de l'argent, il y a d'autres professions meilleures que celles de notaire. J'aime vous entendre parler ainsi. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, et j'imagine que si je voulais me lancer dans les affaires, j'y réussirais, tout comme celui-ci ou celui-là. Est-il de plus beau rôle à remplir dans la société que celui de notaire ? Dit le père Rotin, qui, bien qu'il jouât ce rôle aussi rarement que possible, portait haut la fierté de sa profession. Le dimanche est généralement le jour le plus occupé pour les notaires de campagne, mais à Oissel, les clients n'encombraient jamais l'étude, et ceux qui vinrent ce dimanche-là furent confiés à Alexis avec plus d'empressement encore que de coutume. Vers 10h30, le père Rotin proposa à Courteheuse d'aller au-devant de Benoît Gibourdel, qui devait arriver par la route d'Orival. Mais comme ils sortaient du jardin, ils virent venir de loin un cheval blanc, monté par un homme en blouse bleue et coiffé d'un chapeau à très haute forme et à large bord. « Le voilà !» dit le notaire. Courteheuse eut le temps de l'examiner à mesure qu'il se rapprochait au trot pacifique de son bidet. C'était, autant qu'on en pouvait juger en selle, un homme de petite taille qui avait dépassé la soixantaine de quelques années, mais d'apparence souple et solide. Dans son col de chemise qui montait haut et, comme un paquet de bouquets, lui enveloppait la tête, apparaissait un visage couleur cidre doux, rasé de frais, avec de petits yeux gris, perçants, dont la malice était accentuée par le sourire des lèvres larges, épaisses, gourmandes et sensuelles. Arrivé devant la grille, il mit pied à terre légèrement et, passant la bride de son bidet dans son bras gauche, il tendit l'autre main au notaire. « Monsieur Rotin, la compagnie, j'ai bien l'honneur. J'espère que je ne suis pas trop en retard, je ne me suis point arrêté en route, mais il y a tout de même un joli ruban de queue de tuite ici. » Il n'était pas homme à mettre son bidet à l'auberge où il aurait fait de la dépense. Il le conduisit dans la petite cour derrière la maison et après l'avoir attaché et débridé, il lui versa sous le nez un pochet d'avoine qu'il avait apporté dans son porte-manteau. Car s'il évitait de dépenser son argent inutilement, il ne tenait pas moins à ne rien coûter à ses amis. Chacun le sien, n'est-ce pas ? Personne plus que lui n'était ferré sur cette règle. Ce fut seulement après ses soins donnés à son cheval qu'il s'occupa de ceux de sa toilette, battit avec sa houssine la poussière de son pantalon et ôta sa blouse dont l'indigo avait déteint sur ses mains, qui n'avait jamais connu l'usage des gants. Pour les laver, il entra dans la cuisine et paya d'un baiser, fortement appuyé sur la nuque de la servante, le torchon blanc qu'elle lui présentait. « Le patron n'en saura rien, » dit-il en riant. « Qui que vous voulez que ça lui lasse ? C'est-il possible ?» Et sans pousser plus loin ses galanteries, qui pour lui étaient simple politesse, il entra dans la salle à manger où le notaire et Courteheuse l'attendaient, et celui-ci ne put pas ne pas remarquer que le vieux paysan qu'il avait vu quelques instants auparavant s'était transformé en une sorte de monsieur, tout à fait à son aise dans sa redingote en drap vert et son gilet de soie à fleurs. On se mit à table et tout de suite la bonne apporta, entourée d'une serviette, une soupière en terre brune fermée de son couvercle. « Aimez-vous les tripes ?» demande le notaire à Courteheuse. « Je ferai des lieux pour en manger. On nous en prépare ici le dimanche qui sont bonnes. J'ai pensé que vous n'étiez peut-être pas encore assez citadin pour dédaigner ce plat campagnard. » « Mais je vous assure, mon cher maître, que pour la nourriture, je suis resté le paysan de mon enfance et qu'à bien des mets savants, je préfère un plat de lard avec des choux ou un ragoût de mouton aux pommes de terre. J'aime aussi les gros morceaux, en un mot la mangeaille. Quand on a été privé dans sa jeunesse, on se rattrape plus tard. » Et les femmes, comment que vous les aimez ? Demanda Benoît Gibourdel, qui n'était pas homme à perdre son temps. Si Courteheuse avait cru que la franchise était sans danger dans cet entretien, il aurait répondu que ses goûts amoureux et gastronomiques étaient les mêmes, qu'à l'élégance il préférait la solidité, et qu'en tout, comme partout, il aimait les gros morceaux. Mais il ne savait rien de la femme qu'on lui proposait, et dans ces conditions, une profession de foi eût été imprudente. « Je les aime toutes, » dit-il. Benoît Gibourdel lui présenta son verre plein de cidre pour trinquer. « Vous me faites plaisir, » dit-il, « parce que faut que vous sachiez que ma nièce ne pèse pas 200. Mieux vaut le dire tout de suite. Mais vous ne la prendrez pas au poids, pour sûr. » Disant cela avec un gros rire, il tendit son verre à Courteheuse pour trinquer et le vida d'un coup comme s'il le jetait dans un trou. Puis, se tournant vers le notaire, « Bon cru tout de même, c'est-il de votre côte ?»« Oui, j'ai planté moi-même tous les pommiers qui m'ont donné cette récolte. » »« Vous pourriez bien avoir un peu trop forcé la marie en frit. Rien ne vaut un bon mélange de bédane, de fréquin, de bouteille et de peau de vaque. Dans vos terres, s'entend, le sucré de la peau de vaque adoucit la mère des autres. » On pouvait supposer qu'il avait oublié sa nièce, mais le notaire, qui le connaissait, n'était pas dupe de cette finesse oratoire, destinée simplement à faire croire qu'il n'attachait que peu d'importance à ce sujet de conversation. Après avoir jeté sa nièce à la tête de Courteheuse, il la reprenait pour bien montrer que, s'il était disposé à s'en occuper, il en était nullement embarrassé. Bientôt, il allait y revenir. « Vous savez, monsieur Courteheuse, » dit-il au bout de quelques minutes, en suivant son idée comme s'il ne s'était pas interrompu, « on ne vous propose pas marchandise dans le sac. Jamais Benoît Gibourdel n'a vendu une pipe de cidre sans la donner à goûter, et toujours la marchandise, pareille à l'échantillon, tout le monde vous le dira. Vous verrez la petiote, vous la verrez. Une jolie femme, fine, une couleuvre sans sémant. Et gentille, si gentille que je n'ai pas pu la garder avec moi jusqu'à cette heure. Elle avait 10 ans quand, à la mort de défunte ma pauvre sœur, je l'ai ramenée de Paris à la maison. Pendant 2 ans, je l'ai envoyée à l'école des religieuses et elle profitait bien. Mais un jour, voilà notre curé qui vient me voir et me dit que je ne peux plus la garder. Pourquoi donc, monsieur le curé ? Elle va sur ses 13 ans, qu'il me répond. C'est l'âge pour me rendre service, elle me tiendra mes écritures. C'est impossible, monsieur Gibourdel. Pourquoi donc, monsieur le curé, que ce qui était possible hier ne le serait plus à nuit, que je lui demande en face? Il faut que vous sachiez que notre curé est un digne homme, le meilleur des prêtres, mais pas le brave des braves. Pour un rien, il est tout de suite effouqué. Ça vient de ce qu'il a été aumônier dans un couvent de dames religieuses à Rouen, où il ne s'est pas habitué à parler fort, et puis aussi de ce qu'il a un nom qui le gêne. « Il s'appelle l'abbé Taillefesse, » interrompit le notaire. « V'là-t-il pas de quoi s'éluguer ?» continua Gibourdel. « C'est-il pas un nom comme un autre ? Enfin, il paraît que ça faisait rire les petites filles, et ils sont tourmentés. C'est pour ça qu'on ne l'appelle que monsieur l'abbé Charles. De plus encore, il n'est pas mal sourd. Enfin, tout ça fait qu'il n'est pas hardi en parole. Pourtant, v'là qu'il m'adresse un sermon, un vrai, que je ne suis pas mariée, que mes servantes ont des effants. Là-dessus, vous pensez si je me fâche. Il y avait de quoi, interrompit le notaire avec un sourire narquois. Bon Dieu, que je lui dis, qu'est-ce que vous allez chercher là, monsieur le curé? Faut-il que vous ayez des idées dans la tête? Ma nièce, la fille de ma pauvre sœur, le sang de mon sang? Il me fait des excuses et m'explique que ce n'est pas tout ça, mais que la place d'une jeune personne n'est pas dans une maison où il n'y a pas de femme, que les servantes ont quelquefois des effants, que cela peut lui nuire plus tard, qu'il faut la mettre dans un couvent où elle deviendra une demoiselle et d'où elle ne sortira que pour se marier. Enfin que, si je veux, il s'occupera de la faire admettre dans le couvent où il a été aumônier, qui est un des premiers de Rouen, rue du Mollévrier, et dans lequel on ne reçoit que les filles de bourgeois. Qu'est-ce que je pouvais répondre? Je ne voulais que le bonheur de ma nièce. Voilà comment, depuis plus de 7 ans, elle est chez les dames de la Visitation et qu'elle n'en est jamais sortie. Oh, elle a joliment profité, et pour l'éducation, elle ne craint personne. La supérieure me le disait encore la dernière fois que j'y ai été. Pour sûr, ça a fait du coûtement, mais faut pas le regretter, et M. Rotin est là pour vous dire que, comme son tuteur, on n'a point de reproches à m'adresser. Elle avait 100 000 francs à la mort de sa mère, elle en a 120 000 au jour d'aujourd'hui. Il avait filé son récit pour arriver à cet effet, et si simplement, avec un air si bonhomme, que le notaire ainsi que Courteheuse, qui cependant connaissait bien les paysans, n'avait pas pu ne pas admirer son talent de comédien. Après une courte pause, pendant laquelle il rattrapa le temps perdu en avalant les morceaux doubles, il continua, car il n'avait pas fini, s'étant réservé pour le bouquet un dernier effet, plus puissant encore. « À la saison que jetons de la vie, » dit-il en vieillissant sa voix et en voûtant ses épaules. « Qu'est-ce qui peut me rester à souhaiter avant d'aller faire une bosse dans le cimetière ? Assurer le bonheur de ma petite Hortense, que j'aime comme si elle était ma propre fille. » Il essuya une larme qui était censée retenue dans le coin de sa paupière, puis il poursuivit. « Et aussi, assurer la tranquillité de mon pauvre argent que j'ai eu tant de mal à gagner. Hortense est ma seule héritière. » Je veux, avant de mourir, être assertainé que ma succession ne courra pas de risque, faut donc que je choisisse à ma nièce un mari dont je serai sûr. C'est pourquoi, quand M. Rotin m'a parlé de vous, M. Courteheuse, renseignement pris, l'affaire m'a paru faisable, et que je pouvais remettre ma fortune comme ma nièce entre vos mains, parce que vous les rendriez heureuses. Si vous devenez mon neveu, c'est vous qui placerez mon argent, et vous lui ferez bien produire 6 ou 7%. Il y a des deuxièmes hypothèques qui valent les premières, et alors on peut forcer l'intérêt. Monsieur Rotin ne l'a jamais voulu, mais je n'étais pas son oncle. Maintenant, je sais bien que tout ça, c'est des paroles. Il faut que ma nièce vous plaise et que vous lui plaisiez. Voulez-vous que nous allions au couvent vendredi, sous prétexte de préparer son compte de tutelle ? Vous la verrez au parloir, on causera. »